Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Cécile Poignant, experte en tendance, conférencière dans le monde entier et que j'ai connue à travers Pierre-Henri, son mari. Et en fait, je t'ai invité parce que on voit bien que les marques, elles essayent d'innover dans tous les sens. On parle tout le temps d'IA, de chatbot, d'impression 3D, etc., etc. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent que les marketeurs, ils ne savent plus très bien où donner de la tête. Ils ne savent plus comment innover, ils ne savent pas très bien quoi regarder. Et comme toi, ton métier, c'est quand même de suivre les tendances, de former ces personnes-là à suivre les tendances. Ça m'intéressait qu'on ait cette conversation. Qu'est-ce que tu recommanderais? C'est quoi ton premier conseil finalement à des personnes qui savent qu'elles doivent innover, mais qui ne savent pas par quel bout le prendre?
Bah, je dirais que la première chose, c'est d'arriver à retrouver un état de curiosité.
Ouais.
En fait, cet état-là, on l'a quand on est enfant. Quand on a à peu près 3 ans, il y a beaucoup d'études qui disent que la moyenne de questions qu'on peut poser par jour à ses parents, c'est 300. Les petites filles un petit peu plus que les petits garçons, désolé, c'est comme ça. Donc c'est un âge où on se pose des questions sur absolument tout, c'est-à-dire qu'on prend rien comme étant là parce que c'est là. On sait pourquoi le ciel est bleu, dans quelle matière sont faites les ombres, où est-ce que l'univers finit, et avant les parents de tes parents et les parents de tes parents de tes parents, il y avait qui et comment ça a commencé. Et en fait, c'est un état qui est absolument, de mon point de vue, merveilleux et qu'il faudrait retrouver. Et c'est cet état de curiosité, d'ouverture au monde, d'éveil, en fait, qu'il faut retrouver. Le mot curiosité, c'est assez intéressant. En fait, ça vient du latin cure, donc comme dans une cure. Et en fait, il y a l'idée de prendre soin. Et donc, quelque part, la curiosité, pour moi, c'est aussi prendre soin de soi. Et en redevenant curieux, ben, on se réouvre au monde et du coup, on peut s'alimenter avec des nouvelles choses. Et c'est tous ces nouveaux entrants qui permettront d'avoir des idées pour des innovations.
Alors, la première objection qu'on va me faire si je dis ça, c'est « oui, mais j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps d'être curieux, j'ai pas le temps de me poser toutes ces questions.
Ben ça, c'est pas vraiment vrai, parce qu'en fait, on fait plein de choses où on peut les faire en étant dans un état de curiosité. C'est-à-dire qu'on va faire ses courses au supermarché, ben, au lieu de, quand on fait la caisse, d'être en train de maugréer parce que ça prend trop de temps et parce que ça va pas assez vite, ben, on peut regarder ce que ses voisins ont mis dans leur panier, ce qu'ils achètent, on peut éventuellement commencer à discuter avec eux. Quand on fait la queue au cinéma, on peut faire pareil. Quand on est dans le train, même si c'est pas très poli, on peut regarder un peu ce que font les voisins, qu'est-ce qu'ils regardent comme film ou qu'est-ce qu'ils lisent, est-ce qu'ils lisent encore des magazines papier ou plus du tout, est-ce que tout le monde a un iPad ou pas. Donc la curiosité, pour moi, c'est quelque chose qui peut se travailler. C'est comme un pianiste fait des gammes, un peintre se met à faire des dessiner pour garder un bon coup de crayon. La curiosité, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose à travailler.
C'est marrant que tu dises ça parce que donc moi je fais de la photo, j'aime bien la photo et je vois bien que quand j'ai un appareil photo dans la main, j'ai une curiosité qui est différente, c'est-à-dire que d'un coup, je regarde les choses de manière différente, je regarde ce que je peux prendre en photo et d'ailleurs, je pense que n'importe qui a eu cette expérience quand il se balade dans une ville, il la regarde de manière totalement différente quand c'est sa ville dans laquelle il habite ou si c'est une ville dans laquelle il visite. Je pense que cette curiosité, c'est un peu à ça que tu fais référence quelque part.
Ouais, c'est cet état d'esprit d'ouverture au monde. Et en fait, malheureusement, enfin surtout en France et heureusement dans certains pays de Scandinavie, c'est un peu différent. Mais nous, on a malheureusement un système scolaire en fait qui formate beaucoup les enfants et qui les empêche d'être curieux. Et d'ailleurs, une des phrases que je déteste le plus, c'est « la curiosité est un vilain défaut ». C'est vraiment une phrase absolument terrible. Je crois que je déteste celle-là et je déteste aussi le monde est stable. Enfin, le monde n'est pas stable et la curiosité, c'est tout à fait sain. Donc, en fait, un système scolaire qui a tendance à étouffer la curiosité, qui finalement ne demande pas aux gens de chercher par eux-mêmes, d'avoir du libre arbitre, d'avoir une pensée personnelle. Et le problème, en fait, c'est que ces jeunes enfants, quand ils se retrouvent après étudiants, et ben, ils sont toujours un peu dans la même dimension de non-curiosité. Et après, ils arrivent sur le marché du travail, ils commencent à bosser, et là, on leur dit « soyez créatifs ». Et on leur demande d'être créatifs, alors qu'à aucun moment, on leur a donné la possibilité de nourrir leur curiosité. Donc, c'est là où il y a une espèce de double contrainte, en fait. C'est « ne soyez pas curieux, mais soyez créatifs ». Alors qu'en fait, c'est pas possible. Pour être créatif, faut être curieux.
Bien sûr. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'on parle beaucoup, quand on parle d'intelligence artificielle, de l'accroissement nécessaire de l'intelligence émotionnelle, mais une intelligence émotionnelle qu'on n'apprend pas du tout à l'école, parce qu'on a une intelligence qui est très rationnelle, on est très mathématique, en particulier en France, mais c'est vrai un peu partout. Donc c'est aussi à ça. Alors bon, malheureusement, les gens qui nous écoutent, ils peuvent toujours revoir l'éducation de leurs enfants, mais par contre, pour eux, c'est un peu trop tard.
Non, je crois pas, en fait. Je crois pas que ce soit trop tard. Je crois que il faut accepter, en fait, il faut avoir envie d'apprendre des choses. Ouais. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ont dû commencer à faire du yoga ou de la méditation. Et moi, je me souviens très bien que le premier cours de yoga auquel j'ai été, donc c'était aujourd'hui, on va apprendre à respirer. Et évidemment, moi j'étais là, je me disais dans mon fort intérieur, je disais mais c'est complètement con cette idée, on va apprendre à respirer. Évidemment que je sais respirer puisque je suis ici, je suis présente, je suis vivante, donc je respire. Oui, mais en fait non, on ne sait pas respirer, on ne sait pas vraiment marcher. En fait, c'est des choses essentielles qu'on n'apprend pas. Et donc il faut après, et la curiosité c'est pareil. En fait, la curiosité c'est savoir regarder. Et on voit beaucoup de choses, mais de façon assez rapide, globale, sans se poser des questions. Et la curiosité...
On regarde son téléphone en permanence.
Voir aussi. On essaye de faire un peu trop de multitasking. Enfin, je suis mal placée pour le dire. Je fais que ça tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est juste apprendre à se poser des questions. C'est-à-dire regarder la même chose que ce qu'on a sous les yeux, comme d'habitude, mais se poser des questions. Et ça, je dirais que c'est comme commencer à apprendre à respirer ou apprendre à marcher correctement en posant le pied et en posant son poids du corps correctement. Ça s'apprend à tout âge. Donc, il est jamais trop tard.
Est-ce qu'il y a une méthode? Alors, du coup, si tu devais me dire, ou si je te demandais, par exemple, ou ce que tu dis, par exemple, en conférence, en formation, Par où je le prends, en fait? Comment je commence? Quel genre de questions je vais me poser? Enfin, tu parlais de quand je fais la queue au supermarché, quand je marche dans la rue, quand je veux prendre le métro.
Eh ben, ça peut être absolument des questions qui peuvent, par exemple, juste des constatations. Tu passes dans les rayons du supermarché et tu dis quand même, qu'est-ce qu'il y a maintenant comme aliment liquide? C'est absolument impressionnant. Au début, ça commence.